Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Qui est bien fait suite à tous ces cantiques. Vous avez remarqué, ce matin, il nous a chanté des cantiques sur le ciel. Non, il me semble. Oui, vous avez fait attention aux paroles. Hein. Alors, eh bien, écoutez, moi, je voudrais vous entretenir sur ce propos, qui est un sujet particulier parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la terre. Hein. On parle de nos vicissitudes, de nos contingences, de toutes ces choses qui, quelquefois, eh bien, nous empêchent de vivre sur la terre comme on vivrait au ciel. Mais le ciel, c'est le ciel, et la terre, c'est la terre. Alors, je voudrais simplement vous apporter le témoignage, un premier texte. Alors, quelqu'un qui peut peut-être nous en parler savamment du ciel, parce qu'il a connu ce que c'était que les affres de la terre, c'est Job. Alors, Job, on va lire dans le chapitre 19, c'est certainement une des plus belles et des plus grandes prophéties dans l'Ancien Testament, renfermées dans l'Ancien Testament qui nous parle du ciel, et de l'espérance en tous les cas du ciel. Alors Job, chapitre 19, verset 23. Je pense que nous en avons besoin, nous en avons toujours besoin, d'avoir une espérance forte. Autrement, nous ne serions pas chrétiens si c'était tout simplement de vagues croyances, une forme de superstition ou autre chose. Ça ne va pas loin, mais nous sommes des gens de conviction avec des certitudes. Nous croyons que ce que Dieu nous a dit, c'est la vérité. Et elle nous fait vivre cette vérité. Et elle nous donne la liberté aussi. Alors Job 19, verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites et qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un butin, un burin de fer et avec du plomb, qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Ça, c'est de l'espérance. C'est une grande espérance. Et si j'avais à dire quelque chose à Job, je lui dis: « Job, maintenant, sache que tu as voulu que tes paroles soient écrites dans un livre, ça y est. Hein. » Et c'est fait, c'est pour nous. Et ça fait longtemps, hein. Ça remonte à bien longtemps. Deuxième lecture que nous allons faire, alors elle est belle, celle-ci aussi, elle est susceptible de nous faire du bien. Peut-être avez-vous pleuré cette semaine? Peut-être avez-vous souffert, ça c'est rien d'étonnant. Peut-être avez-vous interrogé le Seigneur? Quand est-ce sera-ce qu'un jour je verrai ta face? Ça c'est les paroles d'un cantique. Alors voilà, et bien écoutez, c'est Jean, l'évangéliste, qui va nous dire ces mots. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Et là, c'est une belle histoire aussi. Il y a Job qui soupire, Job qui crie à Dieu, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Personne, rien au monde, dans le ciel et sur la terre, m'enlèvera cette conviction que Jésus, que mon Rédempteur est vivant. Puis Jésus, là, maintenant, eh bien, nous dit, à travers l'écriture de Jean, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et écoutez la suite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais comme il nous a dit que c'était vrai, comme il nous a dit que, eh bien, c'est la vérité ce qu'il nous dit, alors je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors, première question, mes frères et sœurs. Vous savez où est Jésus? Vous en connaissez le chemin ? Ouais ? Ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Et ce qu'il nous demande, c'est de le croire. D'accord ? Alors, après les larmes, la joie. Après les chagrins, l'allégresse, si je m'en tiens à ce que nous avons lu jusqu'à maintenant. J'aimerais, d'une manière très simple, parce que c'est quand même assez difficile de parler du ciel quand on n'y a jamais été. Enfin, je suis pas le seul, hein. Mais je voudrais décliner la présentation de cette manière. Comment le ciel? Où le ciel? Pourquoi le ciel? Et quand le ciel? Alors, ça fait quand même pas mal de choses, hein. Mais la Bible nous en parle savamment. L'Ancien Testament nous dévoile un petit coin. Voilà. De ciel bleu. Et puis le Nouveau Testament nous le révèle, franchement. Quand on lit ce que Jésus nous enseigne, ce que les apôtres ont reçu eux-mêmes de Jésus et nous parlent du ciel, alors là, oui. Vous savez que l'hymnologie chrétienne, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, hein. Les cantiques, les hymnes. Nous les avons chantés, vous savez que très 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 fréquemment, il est question finalement du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui est propre, véritablement à nous faire du bien. Alors, après la vie. Après la vie, parce qu'il s'agit bien de ça, je pourrais dire après la mort, non, mais après la vie. La nature nous apprend qu'il y a la mort. Ça, c'est pas quelque chose qui, finalement, eh bien, nous étonne. Mais c'est une préoccupation universelle. Et combien de sociétés, combien de civilisations se sont succédées les unes avec les autres, les unes après les autres, et ont marqué un fait particulier sur cette préoccupation. Mais qu'est-ce qu'il y a après la vie? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors on a brodé toutes sortes de légendes. On a fait penser aux gens qu'il pouvait y avoir et ça les aidait à vivre. Ouais, c'est ça. Comme dira Marx, eh bien, la religion c'est l'opium du peuple. Mais moi je suis pas là pour vous parler de religion, je vous parlais des attestations et de ce que Jésus nous dit d'une manière très claire à travers la Bible et à travers le message de l'évangile. Et toutes les mythologies antiques et mythologies modernes, parce qu'elles existent encore aujourd'hui, eh bien là sont obsédées, nous pourrions dire, par cette idée de l'au-delà. Quelque chose, il y a quelque chose forcément. Et que l'on se tourne à droite ou à gauche, nous voyons ici et ailleurs, eh bien, toutes sortes de vestiges et de témoignages nécrologiques, si vous permettez le mot. C'est-à-dire que, voilà, il y a un tourisme comme cela, hein. Vous allez en Égypte, vous allez au Moyen-Orient, vous allez dans toutes les parties du monde, même dans les contrées où ce sont des religions non chrétiennes. Voilà, il y a toujours quelque chose qui évoque et qui laisse inspirer, bien qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, c'est pas mon propos ce matin, parce que je veux pas perdre mon temps sur toutes ces questions-là, on pourrait revenir peut-être, hein, que ce soit les mythologies égyptiennes, grecques et romaines, ou tout ce que vous voudrez, et puis il y en a d'autres, et j'en passe, et j'ai pas la mémoire de tout cela, en tous les cas. Alors, lorsqu'il s'agit d'aborder le ciel, et vous savez, je voudrais le dire d'une manière très claire, hein, c'est la destinée des croyants après la mort. Voilà, c'est ça le ciel. Pour nous, je dis bien pour nous, eh bien, lorsque nous abordons ce sujet, nous devons d'évoquer la notion de l'éternité. Et cette notion d'éternité, elle est marquée d'une manière très claire dans l'Ancien Testament. Il nous est dit dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. C'est pourquoi il y a ce sentiment religieux. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment, finalement, d'honorer les morts. Parce qu'il y a certainement quelque chose. Et il y a là toutes sortes de manifestations autour de tout cela. Alors, les morts, ils sont morts, hein. Nous sommes sur la terre et nous sommes vivants. Et la Bible nous en parle de la manière dont nous devons aborder la question. Il y a une parole qui nous est donnée, qui nous dit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez qui c'est qui l'a dit? C'est Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Faut-il qu'il y ait un accomplissement de cette volonté de Dieu que nous avons appris à connaître pour y satisfaire, pour vivre éternellement? Eh bien oui. Les choses sont beaucoup plus simples. Un peu plus loin, si nous approchons la question, il nous est dit que la foi en Jésus nous ouvre cette porte de l'éternité. La foi en Jésus. C'est pas la foi dans une religion, c'est pas la foi dans une philosophie, théologie ou tout ce que vous voudrez. Parce que Jésus va le montrer d'une manière très claire. Dans un événement particulier que nous trouvons dans l'évangile de Jean, il dira « Celui qui croit en moi ». ne mourra jamais. C'est simple à comprendre, me semble-t-il. Si je crois en Jésus, je ne mourrai pas. Alors peut-être que c'est le Waterloo de la pensée, ça. Hein la Bérésina, nous pourrions dire, de la pensée humaine. Eh bien, moi, je dis que je crois en Jésus, vous croyez en Jésus, et je voudrais vous assurer sur les paroles mêmes que Jésus, que nous ne mourrons jamais. Mais de quelle mort s'agit-il ? Reste naturellement à éclairer la chose. Celui qui garde ma parole, je vais faire quelques citations, ne verra jamais la mort. C'est croire en Jésus, mais de garder ce qu'il nous a dit. Il nous dit que nous ne verrons jamais la mort. Donc, vous avez remarqué que le premier pas, l'impératif, l'absolu, c'est de croire. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Paul l'écrira en lettres de feu dans Éphésiens chapitre 2, « C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est un don, une grâce de Dieu, afin que, eh bien, personne ne se glorifie. Les œuvres, je les fais, elles sont méritoires et elles peuvent, éventuellement, si je le crois, mais à tort, qu'elles peuvent m'ouvrir les portes du paradis. » Non, Paul dit, c'est par la foi, uniquement, sans les œuvres. Donc, l'impératif, c'est croire. Mais, il y a quelque chose qui vient m'interpeller. Sauver, oui, mais pour quelle destination ? Ah. L'Écriture sainte nous dit que le croyant, lorsqu'il quitte son corps terrestre, sachez-le, hein, va vers Jésus-Christ. Ouais. Il va vers Jésus-Christ. C'est vers Jésus que nous allons. Jésus est une personne, hein. C'est pas un lieu. C'est pas une légende. C'est pas un mythe. Alors on va vers Jésus-Christ, et pour nous dire, pour faire vite, il n'y a ni purgatoire, invention ô combien déplacée d'un christianisme apostat, il n'y a ni purgatoire, et il n'y a pas non plus d'inconscience de l'autre côté. Nous sommes conscients, à en juger par une autre parabole que je vous dirai tout à l'heure, mais nous sommes conscients, nous ne sommes pas dans un état là, voilà. Un mystère qui est celui de la survie. Nous vivons, mais lorsque nous partirons, nous avons non pas seulement la vie en Jésus-Christ, mais nous avons la survie. Nous, survie, c'est assez négatif, parce que quelqu'un qui survit, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir. Hein. Il est juste là, en surface. Mais la survie, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Et les croyants morts, dans la foi en Jésus-Christ, et vous allez l'entendre, il nous est dit dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, ils dorment. Nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés, et il y en a eu, on en a vu, on en a accompagné, hein, bien sûr, nos bien-aimés, ceux qui sont déjà partis, ils dorment. Eh oui, c'est le terme qui est employé. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont inconscients. Ils sont avec Jésus, dans la présence de Jésus. Ils sont déjà rentrés dans la gloire. Donc, ils dorment. Ce n'est qu'un sommeil d'attente, si vous voulez. Oui. Une attente de quelque chose d'autre. Il y a une belle comparaison qui nous est donnée. Ce sont des approximations, mais des choses qui peuvent quand même parler et nous donner une idée. Semblable à la semence. Qui tout simplement attend le printemps. La semence qui précédemment, 3-4 mois auparavant, a été abandonnée, jetée, dispersée dans la terre. On pourrait dire que c'est perdu. Mais non, ce n'est pas perdu. Et on s'aperçoit que, par exemple, Jean nous le déclare d'une manière tout à fait sensible et évidente, quand dans le chapitre 12, de son épître, alors que je retrouve, parce que j'ai beaucoup de références ce matin à vous donner, il est donné cette parole. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus, et je voudrais que ce soit les paroles de Jésus qui fassent foi et qui étayent ce que nous disons ce matin. Alors, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, apparemment il va mourir, hein. Le cultivateur va l'abandonner, il reviendra pas pour voir ce qu'il est dans 8 jours ou dans 1 mois. C'est ça. Alors il reste seul. Mais s'il meurt, s'il meurt, eh bien, il porte beaucoup de fruits. Il faut, dans l'économie qui est la nôtre, l'économie de cette humanité, il faut mourir pour renaître. À partir de rien du tout, eh bien nous allons véritablement rentrer dans une autre dimension. C'est ainsi, on ne change pas les choses, et c'est Dieu qui ne le voulait pas de cette manière à l'origine. Parce que si on remonte par exemple dans le livre de la Genèse, et là la faillite de l'humanité, pas la faillite de Dieu, mais la faillite de l'humanité, il faut passer par ce processus. Semence abandonnée à la terre, semence perdue. Mais c'est le principe de la mort qui va vers la vie. Or, dans la nature, nous passons de la vie à la mort. Et tous les automnes, c'est les hivers, c'est ce qui se passe. Mais là, bientôt, vous avez vu, ça commence à changer. Hein, ça commence à se bouleverser parce que le principe est là. Donc, en quelque sorte, c'est le principe de la mort à la vie ou le triomphe de la désintégration, si vous me permettez ce mot, vers un corps nouveau. Parce que, frères et sœurs, je voudrais vous dire que nous allons revêtir un corps nouveau glorifié. Alors peut-être que certains, vous ne vous aimez pas parce que vous avez quelques disgrâces, que vous avez quelques défauts, infirmités, etc., etc. De l'autre côté, votre corps, notre corps, sera un corps glorieux et céleste. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oh, je vois que vous adhérez quand même. Oh là là! Le mal aux dents, l'arthrose, etc., etc. On en a par-dessus la tête, hein. Tout ça, ça fait mal, hein, c'est sûr. Voilà. Un nouveau corps. Semence perdue, apparition d'un arbre, apparition d'un nouvel être vivant en quelque sorte. Oui. Et ça, on l'appelle la résurrection. On l'a chanté plusieurs fois hein, ce matin. La résurrection, c'est un miracle inexpliqué, comme tous les miracles d'ailleurs. Le mortel et le passager a été englouti par l'immortel et le permanent. Nous sommes de passage voyageurs sur cette terre, hein. Étrangers et voyageurs, nous dit la Bible, tout simplement. C'est une nouvelle identité que nous aurons, et elle va apparaître selon ce texte sur lequel nous allons revenir assez souvent, parce qu'il est assez fourni en explication. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 53 quand il est donné cette parole. Je me contente tout simplement de relire les textes, hein, simplement. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, nous est-il dit, tout simplement. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, toujours la parole hein, qui fait foi. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous connaissez ces textes? On les lit. On les lit très souvent dans les services d'inhumation, ça c'est certain, pour amener devant les gens eh bien la réalité de ce qu'est, de ce que sera finalement eh bien l'au-delà. Et j'aimerais vous dire quelques mots, quelques caractéristiques qui sont dévoilées de ce que sera notre destination et de ce que nous y serons d'ailleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, nous n'aurons plus le même corps. Quand Jésus est ressuscité, ses disciples ont voulu toucher en disant « Non, non, pour l'instant vous attendez, bientôt, parce que finalement, eh bien, les choses vont changer. » Et c'est vrai que quand Jésus est monté au ciel, il est monté dans un corps glorieux. Et les disciples l'ont vu, hein, naturellement. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15 et 43 à 49, il est dit ceci, je lis hein, pour mémoire. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, la graine. » La semence perdue dans le sol. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, ce que nous sommes. Il ressuscite corps spirituel. Voilà la différence. Hein. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Ouais, ouais. Dieu nous a créé être tripartite, on en a vu, hein, corps, âme et esprit. Mais il nous a créé pour l'éternité. Il a mis la pensée de la pensée dans le cœur de l'homme de l'éternité. Mais de quelle éternité s'agit-il? Moi, je vous parle de cette éternité positive, céleste, dans la présence de Dieu. Il y en a une autre, hein. Mais c'est pas mon propos aujourd'hui. Il y a un corps spirituel, un corps naturel. C'est pourquoi il est écrit le premier Adam. Vous savez, notre père à tous, hein. Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant à cause de la résurrection de Jésus. Et nous le portons déjà en nous, hein. Nous portons ce souffle, l'esprit de Dieu. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, évidemment. c'est ce qui est naturel, c'est ce que nous sommes. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, et il faut naître de nouveau pour cela. C'est ce qui nous donne finalement les prémices et le principe d'être homme du ciel. Tel est le terrestre, on saute aussi les terrestres, tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Il en est de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Imaginez-vous ce que ça va être, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on se reconnaît parce que nous sommes des hommes de la terre, de cette humanité, une humanité perdue, mais sauvée en ce qui nous concerne. Et qu'est-ce que sera notre dimension de l'autre côté? Dis donc, c'est quelque chose dont nous avons du mal à nous imaginer, mais on va essayer de percer un petit peu le mystère, sans vous donner des révélations extravagantes et surtout sans spéculation. C'est pas mon genre. Hein. La parole de Dieu se suffit à elle-même, naturellement. Alors, il nous est dit que ce corps nouveau sera impérissable. Il sera incorruptible. Il sera glorieux. Il sera plein de force, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de faiblesse et de maladie et d'infirmité. Il sera lumineux, il sera éblouissant, il sera transfiguré. Tiens, c'est intéressant, nous avons un élément intéressant là, quand je parle de transfiguration. Notre monde d'aujourd'hui, notre corps d'aujourd'hui est défiguré. Parce que nous ne sommes plus le reflet de l'image de Dieu puisque nous avons été créés à son image. Nous sommes défigurés. Mais il a fallu que Jésus, lui, soit défiguré sur la croix, que pour nous, nous soyons transfigurés. Que nous retrouvions l'image. Alors, il ne s'agit pas d'une image physique, on en a fait l'étude il y a quelque temps. C'est une image morale et une image spirituelle. C'est ça, la grande question. Écoutez, il nous est livré cette belle parole. Et vous allez voir ce que c'est que la transfiguration. J'espère que je ne suis pas trop compliqué, hein, parce que les choses ne sont pas forcément très simples. Hein. Mais bon, on va essayer de faire clair et de parler un langage qui puisse être accessible à tout le monde. Dans Matthieu, chapitre 17, c'est Jésus qui nous donne cette espérance à travers un fait qui va probablement marquer profondément les disciples. Écoutez, Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Eh oui, comme il parlait, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et moi, je suis à l'écoute de Jésus, parce que ce que Jésus me dit, c'est vrai. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais comme il m'a dit le contraire, que c'est vrai, ben moi je crois que c'est vrai. Et c'est ça notre force de chrétien. Notre espérance, elle n'est-elle que dans le monde? Parce que j'ai une promotion, parce que je réussis. Mais tout cela, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur de la situation et de notre vie. Bénissons-le, on est là pour ça ce matin. Mais il faut qu'il y ait une autre dimension, c'est le ciel, c'est une aspiration à quelque chose d'autre et de meilleur et incomparablement meilleur. Dans Matthieu, toujours au chapitre 13, il nous est donné aussi cette affirmation et au verset 43, cette parole. Alors Matthieu, parce qu'il y a quelques pages dans la Bible quand même, c'est un peu troublant parfois. Chapitre 13, verset 43. Il est donné simplement, voilà, il nous est dit, alors les justes, qui sont les justes? Ceux qui croient en Jésus, hein, justifiés par la foi en Jésus. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous vous rendez compte? Ce sera extraordinaire. Hein, ouais, il y aura là, eh bien, quelque chose qui sera incomparable, extraordinaire, la transfiguration. Et nous serons, nous dit la Bible, rendus semblables aux anges. Ouais. Parce que ce sont des créatures célestes. Des créatures qui voient Dieu, les anges. Dans Luc, il nous est même dit que, oui, nous serons semblables à eux. Alors, il n'y aura plus d'hommes ni femmes, hein. Il faudra se, ah bah oui. Ah bah là, je suis désolé, mais moi, j'y peux rien. Et il nous est même dit, que nous ne mourrons pas, nous ne mourrons plus, par rapport à cette condition finalement qui est la nôtre aujourd'hui. Nous ne pourrons plus mourir, parce que le principe de la vie éternelle sera là. au plus profond de nous-mêmes. Et notre nouvelle identité, nous dit toujours l'Écriture, eh bien là, nous différenciera les uns des autres. Alors j'aurai peut-être encore le temps d'appeler David, je te reconnaîtrai, hein. Tu mets comme petite étiquette pour dire que tu étais David sur la terre, hein. Hein, ou Claude, ou les uns et les autres. Non, non, mais, vous savez, ça sera quelque chose. On se reconnaîtra. Ouais. Il n'y aura plus ni homme ni femme, hein. C'est pour le temps, cela, hein. La famille, les enfants, etc. Mais je crois que il y aura une autre dimension que je ne pourrai pas vous expliquer parce que je ne saurais pas le faire. Mais toujours est-il, faut-il l'accepter. Nous serons dans un autre monde, naturellement. C'est la grande question que les gens quelquefois posent en disant « Mais est-ce que je vais revoir mon père? Est-ce que je vais revoir ma mère? Est-ce que je vais revoir mon enfant? Est-ce que je vais revoir voilà ceci et cela ?» Je crois que Dieu sait tout. Mais moi, je crois qu'il y a une reconnaissance de l'autre côté. C'est l'histoire du pauvre Lazare. Vous savez, la parabole du pauvre Lazare avec le mauvais riche. Le pauvre qui est à la porte, qui est en train de mourir de faim, alors que l'autre, là, mène une brillante et une vie dissolue. Et puis, il a tout ce qu'il faut pour manger. Puis, à un moment donné, ils meurent tous les deux. Mais ils se retrouvent de l'autre côté. Mais pas dans le même sens. Pas dans la même catégorie. Et ils s'identifient, hein. Ah oui, Lazare. Va, va, Lazare. Donne-moi, j'ai une soif infernale, alors donne-moi de l'eau. Ouais, il avait toujours été servi, le riche, hein. Mais là, il n'y a plus moyen d'être servi, hein. Et on comprend qu'il y a là une conscience, en tous les cas. Quand on est de l'autre côté, il y a une conscience. Conscience dans la dimension céleste et de salut, et il y a une conscience également dans la dimension qui est l'autre dimension dont je ne vous ai pas parlé ce matin, mais la dimension des peines éternelles. Mais ça, c'est encore un autre sujet, naturellement. Alors, une pleine conscience. La première question, ça pourrait être comment. Alors, le comment des choses, c'est qu'il y a un événement majeur qui nous est présenté. D'abord, alors, la chronologie des événements est très difficile à faire dans la Bible, hein, je tiens à vous le dire. Après, c'est à nous de remettre en place si l'on peut, hein. Mais il y a un rassemblement universel et cosmonomique, c'est-à-dire la réunion en un clin d'œil de ceux qui dorment d'abord, ceux qui sont morts en Jésus-Christ dans la foi. On appelle ça tout simplement l'enlèvement. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais toujours est-il que c'est la Bible qui l'enseigne. Rassemblement, vous ai-je dit, universel, dans les lieux célestes où Jésus va apparaître. Ça sera instantané et il y aura deux catégories de rachetés. Il y aura ceux qui sont déjà morts, nos frères et nos sœurs, tous ceux qui nous ont précédés depuis les temps immémoriaux. Et puis il y aura nous, si c'est nous, qui seront restés sur la terre. Jésus apparaîtra dans le ciel. Et là, à ce moment-là, il rassemblera. Les morts ressusciteront. Et nous serons emportés tous ensemble avec eux. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Première résurrection. Et naturellement, hein, on ne ressuscite pas comme on est enterré, hein, parce que c'est la semence. Mais on ressuscitera, enfin, pour si nous sommes morts à ce moment-là, eh bien, avec un corps glorieux. Et tous nos bien-aimés ressusciteront de la même manière et il y aura ce rassemblement des vivants sur la terre avec les morts, les chrétiens morts. C'est ce qu'on peut appeler l'enlèvement des rachetés. Tout simplement, première résurrection, et ça sera un cri de victoire. Comme Paul l'exprime dans Romains chapitre 8 et verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, plus de condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour chacun d'entre nous si vous croyez en Jésus-Christ. Et que vous retenez sa parole et que vous vivez par ce qu'il vous a donné de croire. Nous sommes sauvés. Je pense que je marque les fêtes, non? Nous sommes sauvés, frères et sœurs. Il n'y a pas d'aller-retour. Ou les allers-retours, c'est le diable qui nous dit, mais non, c'est peut-être pas encore ça et ceci et cela. Jésus nous dit d'une manière formelle sur la croix du calvaire, avant de rendre l'esprit, tout est accompli. Alors, si tout est accompli, je n'ai rien à faire d'autre que de croire que tout est accompli. Et je suis sauvé aujourd'hui. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre enthousiasme, c'est ce qui fait notre dynamisme, c'est ce qui fait que nous pouvons traverser des épreuves et toutes sortes de tribulations et de tentations, finalement, eh bien, sans chuter, sans défaillir. Parce que nous savons qu'il y a quelque chose de plus fort que tout cela. Paul le dit, mais rien ne saurait être comparé à la gloire à venir. Et c'est la force, finalement, qui nous est donnée. Alors, l'enlèvement, première résurrection. tous ensemble à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Si vous avez jamais pris l'avion, prenez-le avant parce que vous le prendrez plus après, hein. Voilà, dans les airs, et pour toujours. Et je dis bien pour toujours. Et là, ça mérite que nous ouvrions encore quelques pages. Dans Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 14 à 18. Alors, 1 Thessaloniciens 4, 14, 18. Il est dit cette parole. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont décédés. Tous ceux qui sont morts, c'est le principe de l'enlèvement. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas tous ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez cette parole. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous reverrons nos bien-aimés, mes frères et sœurs, ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Ceux que nous avons aimés, ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui ont partagé peut-être pendant des années, notre lutte et notre combat spirituel, nous les reverrons. Quelle consolation! Consolez-vous par ces paroles, nous dit l'apôtre Paul. Eh oui, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et aurions-nous besoin de nous rappeler encore ce que Jésus nous dit, par exemple, ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 3, quand il dit ceci, « Mais lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus dit la vérité. Il nous dit la vérité. Alors, deuxième question, où serons-nous? Le lieu. Alors, il y en a qui... J'ai entendu ça cette semaine, c'est un rappel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de martyrs, là, en ce moment. Ils vont avec la Kalachnikov, et puis ils se disent, ben, tant pis si je suis tué, j'y vais. Parce que je serai accueilli par cette Vierge quand j'arriverai dans le ciel. Vous avez entendu, hein, la doctrine islamique. Voilà, ils pensent que, voilà, c'est... Enfin, j'espère que je vous choque pas, mais enfin bon, quand on sait que Jésus nous dit qu'il n'y aura plus d'hommes ni femmes, et si c'est simplement pour... voilà, dans ces conditions... C'est terrible. Il y a des doctrines diaboliques. Des doctrines diaboliques sur la terre, mais il y a des doctrines diaboliques qui nous parlent aussi du ciel qui n'est pas le ciel, qui est l'enfer. Ignorance peut-être, je crois. Un endroit bien précis nous parle Jésus qui est préparé d'avance, appelé les demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Il y a quelques appellations qui nous sont données dans le Nouveau Testament, par exemple dans le livre d'Hébreux, il nous est dit une cité, la cité céleste. Connaissez-vous cette cité? Vous connaissez le cantique? Oui. Il y a une patrie meilleure, nous dit toujours le livre des Hébreux. Il y a la patrie sur cette terre, puis il y a la patrie de l'autre côté. C'est cette patrie qui aspirait les patriarches. Oui, vous savez, quand ils allaient de chemin en chemin et qu'ils allaient de lieu en lieu, moi je pense à ceux qui ont fait la découverte du pays de Canaan, c'était quelque chose de temporel et quelque chose de matériel et de passager, mais il y a une cité meilleure, c'est celle qui est dans le ciel. Et il nous est parlé d'un pays au ciel. Un pays, c'est une image tout à fait compréhensible pour nous les hommes, mais ça veut dire bien d'autres choses. C'est-à-dire qu'après le paradis terrestre, il va y avoir le paradis céleste. Et si certains considèrent que déjà sur la terre c'est le paradis terrestre, alors qu'est-ce que ça va être dans le ciel? Wow. Et si nous faisons l'état des lieux de ce paradis, de ces demeures dans la maison de mon Père, qu'est-ce que nous y trouvons? Et je restitue toujours les textes de la Bible. Il nous est dit que cette cité sera immuable. Autant la terre est mouvante, autant la terre est changeante, autant il y a des renversements, révolutions et tout ce que vous voulez, des convulsions et tout ce que vous... C'est immuable, ça ne bouge pas. Il nous est dit qu'au cœur de cette cité céleste, dans ces demeures, il y a Dieu et l'agneau, qui sera le centre. Oui, si Dieu disparaît finalement dans cette humanité et que l'on ne veut pas y croire, en tous les cas, ça sera Dieu, Créateur, le Père, le Sauveur, le Rédempteur, avec Jésus, le centre. Il y aura un vrai temple, pas le temple de Salomon, pas le temple qui était reconduit par Zorobabel ou celui qui était refait par Hérode Ier. Non, ça c'est quelque chose, les choses c'était les choses qui parlaient, qui annonçaient les choses à venir. Mais les temples humains, quand bien même ce soit le temple de Dieu, ont tous fini en poussière. Hein. Tous, d'une manière ou d'une autre. Un vrai temple. Ça sera la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu qui éclairera cette cité et les demeures et Christ sera son flambeau. Dixit Apocalypse. Je n'invente rien, c'est écrit. Il n'y aura plus d'obscurité, il n'y aura plus d'ombre. La pleine lumière, cette cité céleste sera une sécurité parfaite. Le royaume de la terre, c'est la peur et la crainte, l'effroi et la terreur. Mais le royaume de Dieu, eh bien, ce sera exactement le contraire. Cette cité sera pure, parce qu'il n'y aura rien de souillé, il n'y aura rien d'abominable, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus toutes ces choses, ça sera un autre monde. En deux mots, on pourrait dire que c'est la perfection et la sainteté, que souvent trop de religions ont voulu et cherché à établir sur la terre, mais à chaque fois qu'ils ont voulu établir la perfection et la sainteté, ça s'est toujours terminé dans un gabegie terrible. Si nous suivons les textes, nous apprenons que parmi ces demeures éternelles coulera un fleuve d'eau vive. Et à côté de ce fleuve d'eau vive, il y aura ce fameux arbre de la vie dont nous avons entendu parler dans le livre de la Genèse et qui, normalement, eh bien, devait être la nourriture des premiers hommes, enfin des premiers hommes de la première humanité, Adam et Ève. Tu pourras manger de cet arbre-là parce qu'il te donnera la vie, il te renouvellera la vie. Mais tu ne toucheras pas à l'autre, celui de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre se retrouve dans les premières pages de la Bible, et il se retrouve dans les dernières pages de la Bible. Ils ont été chassés de cet arbre en raison de l'infraction, et maintenant voilà que les rachetés dans le livre, dernier livre de la Bible, nous aurons accès à cet arbre de la vie, qui nous donne la vie. Et il produira ses fruits d'immortalité. Ce sont des fruits d'immortalité. Si Adam et Ève s'étaient contentés de manger ce fruit de l'arbre de la vie, on ne serait pas passé par toute cette dégradation, cette mort, cette réjection en quelque sorte, cette chute. Ces demeures dans le ciel offriront le parfait repos. Là aussi, nous avons dans l'hymnologie chrétienne énormément de cantiques qui nous parlent de repos. Et nous verrons la gloire divine et celle de Christ. Et ça sera une adoration perpétuelle. L'extase. Quelque chose qui va nous transporter. Le Seigneur nous donne les arts de l'esprit de temps en temps dans notre vie, dans notre communion personnelle, quelquefois dans les cultes où nous sentons l'esprit nous saisir et on se dit, et quelquefois nous avons fait aussi de belles expériences à un moment donné où nous nous sentons soulevés par la vie de Dieu, l'esprit de Dieu qui nous soulève. Mais c'est magnifique, c'est bon. Mais qu'est-ce à côté de cette dimension céleste où ça sera la permanence? Là, c'est tellement fugace, futile, enfin pas futile, mais fugitif, voilà. Ouais, Seigneur, c'est pour ça que David pouvait dire « Mais je veux habiter tous les jours dans la maison de mon Dieu. » Alors nous avons des petits passages, des petits coups de souffle, des petits coups de visitation du Saint-Esprit, ça nous fait un bien extraordinaire. À quelques moments où nous sommes peut-être mal pris dans des épreuves, dans le chagrin, Dieu vient et nous. Un petit cantique inspiré par l'Esprit vient dans notre cœur alors que nous aurions plutôt envie de faire autre chose, de crier et de pleurer. La vie de l'Esprit, mais là, elle sera permanente. Vous rendez compte de ce que ça sera? Extraordinaire, l'adoration. Seigneur, déjà ici-bas, dans les cultes, sur cette terre, apprends-moi déjà à t'adorer. Apprends-moi déjà à t'adorer, Seigneur. Et l'adoration, je rappelle le principe, adorer Dieu. Parce qu'il y a la louange et l'action de grâce. L'action de grâce et la louange, c'est remercier Dieu et bénir Dieu pour ce qu'il fait. Adorer, c'est bénir. Et adorer le Seigneur, c'est pour ce qu'il est. C'est supérieur à ce qu'il fait. Parce que si Dieu n'est que le donateur, merci Seigneur, c'est bien. Merci de ce que tu me bénis. Mais moi, je veux rentrer dans une autre dimension de dire, eh bien Seigneur, je ne te bénis pas et je ne t'adore pas pour ce que tu fais, mais je t'adore pour ce que tu es. Justice, vérité, amour parfait, puis j'en passe sur le caractère même de Dieu. Adoration perpétuelle, nous serons semblables à lui, comme il est dit, semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, vous rendez compte? Il y a des gens qui aspirent à voir Jésus, mais nous le verrons là, à ce moment-là. Après les peines et la souffrance de la terre, nous reflèterons sa gloire. Et cette gloire, elle est exprimée d'une manière admirable à travers les mots de l'apôtre Paul que je vous restitue tout simplement dans chapitre 8 et au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mes frères et sœurs, vous avez des pleurs, vous avez des chagrins, vous avez toutes sortes de choses, mais regardez vers le ciel dans vos épreuves. C'est ça ce qui peut nous donner de tenir le coup. Parce que si nous regardons vers le bas, il y a de quoi désespérer. Paul le dira également dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. Là aussi, je renforce avec, vous me permettrez, c'est peut-être un peu fastidieux, mais j'aime bien donner des preuves bibliques. Au chapitre 4, verset 17, il est donné cette parole dans ces mots. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Principe de la semence, Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles là-haut. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Tout simplement, elles sont permanentes. Et voilà la troisième question rapide. Pourquoi ? Pourquoi le ciel ? Pourquoi toutes ces choses ? Eh bien, je vais vous parler de deux choses maintenant. Ce que l'on peut appeler les rétributions divines et les noces de l'agneau. C'est biblique aussi, Les rétributions divines, je vais le prendre dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, il nous est donné un passage des plus beaux, me semble-t-il, de la Bible. Enfin, vous allez bien, je vous le dis souvent, donc tout est beau. Le verset premier, il est dit cette parole. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Et moi, je vous parle de ceux qui sont sauvés. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous vous rendez compte? Les rétributions divines. Qui a parlé de condamnation? Qui a parlé de jugement? C'est le contraire qui nous attend. Nous sommes sauvés ou nous ne le sommes pas. Moi, je suis sauvé et il n'y aura pas de condamnation. Parce que je le crois et la Bible me l'affirme. Rétribution divine. Il y a un tribunal. Et là, les chrétiens que nous sommes, nous avons vraiment intérêt de bien comprendre ce que nous dit certains textes de la Bible, parce qu'on en a fait des fausses doctrines, même au milieu de nous. Où on a exploité la terreur, la peur, toutes sortes de choses, au lieu de développer la foi. Le tribunal de Christ. Qui dit tribunal? Nous avons vraiment cette notion de tribunal, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais le tribunal aussi a une vocation d'examiner une cause. Oui, de faire justice. Et de produire la vérité. Et le tribunal de Christ, c'est un tribunal, si on veut lui donner ce mot, c'est un observatoire pour déterminer dans la vie des chrétiens le bien. Je m'explique. Parce que dans ce tribunal de Christ, ça sera le lieu de l'éloge au vainqueur et de cette proposition qui est faite par le maître d'en rentrer dans sa joie. Récompense et couronne, voilà les rétributions. Le tribunal de Christ servira aux couronnes et aux rétributions, c'est-à-dire à la récompense. Ça, c'est toujours très flou, parce qu'on l'a peut-être pas beaucoup enseigné. Elle relève de promesses divines formelles. Exemple, la parabole des talents. Et il y en a bien d'autres, j'en passe. Quand le maître va recevoir son serviteur, il dira « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai, tout simplement beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Mes frères et sœurs, nous devons aussi avoir la perspective que lorsque nous servons le Seigneur ici-bas, sur cette terre, il y aura une surprise de l'autre côté. Ça sera pas « Tu en as pas fait assez », et ceci et cela, etc., etc. On sera peut-être pour certains qui auront négligé sauvé comme à travers le feu, mais sauvé quand même. Connaissez l'histoire des différents matériaux de construction, argent, pierres précieuses, or, et puis après du chaume, du foin et tout ça. Mais ça ne remet pas en cause notre salut. Je crois en Jésus, je suis sauvé. Maintenant, après, c'est une motivation qui doit nous être propre à chacun. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fais pour servir le Seigneur? Dans l'Église ou à travers l'Église, par mon témoignage. Et là, c'est là où il va y avoir des récompenses. Il va y avoir des couronnes, tout simplement. Et selon, tout simplement, pourquoi? Parce que le principe, les récompenses, varieront selon la fidélité dans le service. Nous sommes bien sauvés par la foi, mais récompensés selon nos propres œuvres. Si j'ai été un serviteur négligent, indifférent, qui a battu finalement, eh bien ceci et cela, alors à ce moment-là, oui, je pourrais être sauvé, mais je perdrai ma récompense. C'est ça la différence. À moins de renier le Seigneur. Alors ça, c'est autre chose, parce qu'on change de camp à ce moment-là. Voilà le serviteur qui vient avec 10 mines. Voilà le serviteur qui revient avec 5 mines. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, je te confierai 10 villes. Je te confierai 5 villes. Oh, dites donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté? 10 villes? Alors c'est une image, hein, c'est symbolique. Mais il y aura une autorité qui sera donnée à celui qui aura été fidèle. Une gestion, une autorité, me semble-t-il. Je n'ai pas été encore trop loin dans, pour creuser la situation, parce que bon, on n'en parle qu'une fois, hein. Mais toujours est-il que c'est ça les rétributions divines. Tout simplement, le critère qui est retenu dans le tribunal de Christ, c'est tout simplement l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, la consécration et la persévérance. Et les couronnes. Ouais. Les couronnes. Il y en a 3 couronnes qui ressortent du tribunal de Christ. Il y a la couronne de vie dans Jacques, qui est liée à supporter la tentation et par amour pour Dieu. Parce que tu as supporté la tentation, eh bien, je te remets cette couronne. C'est la couronne de vie. Et c'est une preuve d'attachement. Il y a la couronne de justice dans la Bible. Dans 2 Timothée, il nous est dit « En ce jour-là, le Seigneur m'a réservé la couronne de justice, dit Paul. J'ai combattu la foi, j'ai gardé le bon combat. Couronne de justice, couronne de vie. Après avoir été jusqu'au bout, persévéré jusqu'à la fin, mes frères et mes sœurs qui avaient envie de décrocher spirituellement, ne décrochez pas, c'est pas le moment. Parce que vous savez pas ce qui nous attend de l'autre côté. Et quelle déception d'être en deçà. Sauvé, bien sûr, mais en deçà. Et puis il y a la couronne de la gloire. Couronne incorruptible de la gloire. Il nous est dit, quand le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est une vie de justice, une vie de gloire qui nous est préparée. Puisque les rachetés héritiers d'un royaume, nous partagerons la gloire et de plus pour Dieu, nous sommes, encore une autre grande vérité, nous sommes son église, nous sommes sa fiancée et nous sommes son épouse, alors s'ouvrent les noces de l'agneau. Ça va, vous suivez la chronologie, c'est pas facile, hein? Les noces de l'agneau. Comme le fameux livre des Cantiques nous en parle. Tsunamite et son bien-aimé. Comme dans les psaumes, très souvent, quand il est parlé des fils du roi, des filles du roi, c'est toute la préparation. Ça, c'était l'ombre des choses à venir dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est réalisé à travers Jésus et son Église, la fondation de son Église, l'équipement de son Église, la future gloire de son Église. C'est extraordinaire tout ça, les noces de l'agneau, qui est l'emblème du bonheur, de la fidélité, de la félicité d'un amour parvenu à la perfection. Apocalypse, chapitre 19, il nous en est donné quelques éléments. Chapitre 19, verset 7, nous allons simplement le rappeler. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui était donné de revêtir d'un fin lin, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, afin, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, parce que ces paroles sont sûres et véritables. Voilà, les noces de l'agneau. Cantique des cantiques, qui est véritablement, eh bien, la préparation à tout cela, que nous avons étudié il y a quelque temps. Et il y a tant d'autres paraboles que j'appellerai les paraboles nuptiales de Jésus. Le festin, l'invitation aux noces, l'invitation, eh bien, là, à la table du maître, etc., etc. Il y en a plein comme ça. Puis je termine. Un royaume et un palais. Ouais. Ne crains pas. Petit troupeau, nous dit Jésus, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Ça, c'est ce que nous avons déjà en propre. Et nous marchons, et nous montons, et nous nous dirigeons. Je terminerai par quelques remarques sur le royaume des cieux. Qu'est-ce que nous allons y faire? On a beaucoup d'occupations sur la terre, hein. Vous voyez, même les retraités, ils travaillent encore. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de retraite là-bas, non, me semble-t-il. Je crois pas. Alors, nous servirons Dieu. Nous le servirons. Ils seront sacrificateurs de Dieu. Ils seront prêtres pour Christ. Et ils régneront. Quelle sottise! Quelle monstrueuse sottise quand on veut régner déjà sur la terre. C'est que si on veut régner sur la terre, on régnera jamais là-bas. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et encore s'ils y vont, hein. Quelle sottise qu'un chrétien s'imagine être au-dessus de tous les autres. Être véritablement, eh bien là, le maître à penser, celui qui dirige et qui conduit toutes choses. Mais c'est tout à fait à l'inverse de ce que Jésus nous enseigne. Oui, si vous êtes petit, c'est ainsi que vous serez grand dans le royaume de mon Père, nous dit Jésus. Ils seront sacrificateurs. Nous serons tous sacrificateurs. Et il y aura deux phases dans ce règne qui sera partagé entre Christ et son Église, où l'Église partagera avec Christ. Il y aura une période de 1000 ans que l'on appelle le millénium. Là, ça va être quelque chose, hein, imaginez-vous, puisqu'on nous sera déjà dans les cieux avec le Seigneur. Et nous verrons ce qui se passa sur une terre qui a été finalement quelque part pacifiée, où il nous est dit que le diable ne sera plus sur cette terre, que les démons ne seront plus sur cette terre. On a vraiment envie de regarder comment ça va se passer, hein, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, wouf ! Où la main du diable est partout, et le crime, et tout ce que l'on veut, c'est quelque chose d'horrible. Et nous le verrons, et nous régnerons avec Jésus. Est-ce que c'est là, c'est peut-être allusion, mais ça je ne peux pas l'affirmer, où Jésus nous dit, mais puisque tu as été fidèle, eh bien avec 10 000, je te donnerai 10 villes. Ça sera peut-être dans cette période, mais 1000 ans seulement, hein, le millénium. Et puis après, ça sera pour les temps éternels. Nous régnerons, c'est le mot. D'abord dans le millénium, et ensuite les temps éternels. Maintenant, condition de la félicité céleste. Il nous est parlé de nourriture dans le ciel. Mais pas n'importe laquelle, hein. Les gourmands, attention, hein. L'arbre de vie, j'y reviens. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il nous est dit qu'il recevra la manne cachée. Vous vous souvenez de l'histoire de la manne dans le désert? Cette providence de Dieu qui descendait dans les, parmi les Israélites qui étaient là, hein, plusieurs milliers, centaines de milliers, qui avaient cette nourriture qui descendait du ciel. Mais il nous est parlé dans les deux premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, 2-3, quand il s'agit des lettres adressées aux églises, eh bien il nous est parlé de la manne cachée. Et il nous est spécifié qu'il ne souffrira pas la seconde mort, parce que la seconde mort c'est le jugement des nations, c'est le jugement des impies, c'est le jugement de la bête, c'est le jugement de l'antéchrist, c'est le jugement du faux prophète et de tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est beaucoup de choses à assimiler, hein, ce matin. Oh, dis donc, il n'y a pas de seconde mort pour nous. Il y a une première résurrection et il y aura une deuxième résurrection, mais la deuxième résurrection ne sera pas pour nous. Elle sera pour tous ceux qui auront été véritablement révoltés contre Dieu et qui, à main levée en disant « Mais nous ne croyons pas que Dieu existe et nous le maudissons, Dieu. » Et ils se mettront du côté du diable. Ben, ils auront le sort du diable, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de seconde mort pour nous. Nous recevrons un caillou blanc, figurez-vous. Eh oui, qui est l'image, l'emblème de la sainteté, sur lequel nous aurons écrit notre nom. Il va y avoir écrit Alain Oufrard. Pour l'instant, je suis pas trop sûr, mais je suis pas trop sûr de ce qu'il va y avoir écrit dessus. Mais il y aura peut-être pas, ce que j'ai dit, vous retenez pas, mais il y aura peut-être un nom nouveau avec ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Et je la connais pas encore, parce qu'il nous est dit que personne ne sait, hein. Et vous le savez pas non plus. Enfin, si vous le savez, vous me le dites, hein, parce que je serais quand même curieux de savoir ce qu'il y a de marqué sur votre caillou blanc. Christ donnera au vainqueur autorité sur les nations. Alors là, ça fait partie d'un monde que je n'arrive pas à saisir et à comprendre. Y aura-t-il encore un dans le nouveau ciel, une nouvelle terre? Y aura-t-il? Là, je pars en... Je ne sais pas, et je ne dis rien. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y a autre part dans l'univers, d'autres choses semblables à la vie, à la terre, à l'humanité, je ne sais pas, hein. Parce que là, on est en train de gratter, on est en train de chercher. Hein, bon, ça va très vite, hein, pour aller sur Mars, il faut 3 ou 4 ans, bon, on a le temps. Hein. Mais c'est pour dire que, mais ça, c'est la dimension de Dieu, c'est le monde de... C'est incommensurable, je crois que c'est peut-être le mot qu'il convient, donc. Nous serons revêtus de vêtements blancs. Voilà, plus de tâches. Hein? Plus de serviettes pour se mettre à table. Tout propre, en quelque sorte. Un vêtement blanc, notre nom ne sera pas effacé sur le livre de vie, parce que les choses sont présentées de cette manière. Celui qui va avoir son nom effacé, c'est qu'il partira dans l'autre dimension. Mais nous, notre nom est inscrit depuis les temps immémoriaux, avant que même on naisse. Notre nom est déjà inscrit. C'est à nous de le garder inscrit, en quelque sorte. En répondant à l'appel de Dieu, bien sûr. Nous serons une colonne dans le temple de notre Dieu. Vous vous rendez compte? Et une colonne, c'est le soutien. Quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est solide. Voilà. Et nous porterons le nom de notre Dieu. Nous porterons le nom de la ville de notre Dieu. Et nous porterons le nom de la nouvelle Jérusalem, figurez-vous. Tout ça, c'est écrit. Et pour terminer, j'ai fait cette petite étude là il y a 8 jours, très intéressant, et encore je peux pas tout vous dire parce qu'il y aurait beaucoup de choses. Les rachetés seront assis avec Christ dans les lieux célestes, dis donc, le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous pouvons regarder l'ennemi vaincu. Ouais, nous sommes assis dans les lieux célestes sur son trône. Et enfin, Apocalypse 21, et je crois que c'est L'apothéose, c'est les derniers mots qui nous sont donnés. 21, verset 1er, quand il est dit cette parole. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Alors, n'essayons pas de nous imaginer ce que ça peut être. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée, pour son époux, et le verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Tout simplement. Et pour terminer par la conclusion, chapitre 22, et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur, nous t'attendons. Alors des nouveaux cieux, une nouvelle terre, il y aura une consolation éternelle, et je vous dirai, soyons paix, parce que Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, et ayez cette espérance au fond de notre cœur, que le meilleur nous attend. Ouais, et ça peut sécher toutes nos larmes et nos peines, et nous sommes véritablement, eh bien, enfants de Dieu, et nous le croyons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je sais que mon Rédempteur est vivant. On va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. C'est vrai, Seigneur, que nous avons ouvert une page un peu particulière. Une page qui nous est tellement étrange, voire même étrangère. Mais pourtant, il n'y a pas un mot dans, en effet, le Nouveau Testament, il n'y a pas une phrase. Il n'y a pas une page où il n'est pas question du ciel. Oui, Seigneur, parce que c'est vraiment notre destination. Je te prie d'encourager mes frères et mes sœurs qui traversent des moments difficiles et des épreuves. Je te demande pour ceux qui ont perdu leur joie, eh bien, Seigneur, de sécher leurs larmes. Parce que nous savons, Seigneur, que dans le ciel, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les larmes, il n'y aura plus la peine, il n'y aura plus la séparation, les souffrances. Toutes ces choses auront disparu. Seigneur, augmente notre foi pour croire dans ce bonheur éternel, dans ce bonheur céleste. Et merci, Seigneur, parce que moi, tu me fais véritablement, Seigneur, la plus grande grâce en me disant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui, Seigneur. Et de ces plusieurs demeures, peut-être, pouvons-nous comprendre qu'au tribunal de Christ, eh bien, en effet, les couronnes, les récompenses, les rétributions, eh bien, seront données en fonction de ces plusieurs demeures. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous dis que si cela n'était pas, tu nous l'aurais dit. Mais comme tu nous as dit le contraire, eh bien, nous le croyons parce que c'est la vérité. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.com. www.radiomaria.fr.